Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département dans les 48 heures qui viennent.
Le ministre de la Santé en visite à Nice, où l'épidémie gagne du terrain, est prêt à serrer la vis, annonce d'Olivier Véran, alors que l'Élysée dit qu'Emmanuel Macron se donne 8 à 10 jours pour desserrer l'étau ou pas au niveau national. La douceur du week-end, avec des températures jusqu'à 23 degrés dans le sud-ouest, qui incite beaucoup d'entre vous à aller prendre un bon bol d'air. Nous serons en Normandie. Toujours dans l'actualité, la disparition inquiétante d'une mère de famille de 42 ans en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, depuis 9 jours maintenant. La libération en Algérie d'une trentaine de détenus d'opinion, parmi eux l'ancien correspondant d'Europe 1, le journaliste Khaled Drareni. Nous reviendrons dans ce journal sur le débat pour renforcer la loi pour protéger les mineurs des crimes sexuels avec l'adoption d'un texte jeudi à l'Assemblée nationale. Invité Martine Brousse, la présidente de la Voix de l'Enfant, et témoignage d'une pionnière dans ce combat, Eva Thomas, première victime d'inceste, a témoigné à visage découvert. C'était il y a 35 ans à la télévision, un témoignage qui avait fait l'effet d'un électrochoc. La météo avec, on le disait, de la douceur et du soleil sur presque toutes les régions. C'est ce que nous confirmera Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cap sur la Normandie avec un village de la Manche qui ne veut pas des antennes du réseau internet du milliardaire Elon Musk.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Élysée l'a dit hier soir, Emmanuel Macron se donne 8 à 10 jours pour desserrer ou pas les taux des mesures des restrictions en fonction de l'évolution des contaminations. Et parmi les villes qui inquiètent, il y a Nice où était ce matin en visite le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nice où le taux d'incidence affiche des records, 750 contaminations pour 10 000 habitants. Et dans cette ville, on pourrait, Johanna Chabas, avoir un tour de vis, car il y a quelques minutes, le ministre a dit qu'il se donnait 48 heures pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures.
Oui, Olivier Véran parle même d'un confinement total pour la ville de Nice. Tout pour contrer la flambée de l'épidémie. Vous le disiez, 750 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence le plus élevé de France, près de 4 fois plus que la moyenne nationale. C'est notamment dû au variant anglais. À Nice, 500 personnes tombent malades du Covid tous les jours, selon Olivier Véran.
Je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités dans les 48 heures qui viennent.
En attendant ces nouvelles mesures, le ministre de la Santé promet aussi l'arrivée de 3500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer dès lundi.
Le ministre qui était en déplacement à Nice aussi pour parler de ceux dont les syndromes persistent une fois la maladie passée, ceux qu'on appelle les Covid longs.
Oui, pour apporter une réponse à 500 000 Français qui continuent d'avoir des symptômes du Covid plusieurs mois après leur infection. Ça peut être de la fatigue ou encore des difficultés pour respirer. Un malade sur cinq en a toujours après six mois. Olivier Véran leur promet qu'ils pourront trouver un parcours de soins personnalisé avec leur généraliste pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin pendant et après le Covid.
Johanna Chabas, alors que, on l'a dit, donc Olivier Véran envisage de serrer la vis à Nice. Ce qui inquiète aussi les autorités, c'est un possible relâchement. C'est vrai qu'il va faire doux sur la plupart des régions ce week-end, jusqu'à 23 degrés dans le sud-ouest. Pour éviter ce possible relâchement, notez que la préfecture de police a annoncé la mobilisation de plus de 4000 membres des forces de l'ordre à Paris, en région parisienne. Et la préfecture du Rhône a, elle, interdit la vente d'alcool cet après-midi pour éviter des rassemblements. Mais c'est vrai qu'une telle douceur et des températures dignes d'un mois d'avril, comme nous le confirmera Valérie Darmon, ça donne des envies à beaucoup d'entre vous de prendre un grand bol d'air. Vous nous confirmiez, Damien Mestre, certains ont mis le cap sur Trouville où vous vous trouvez.
Oui Fabienne, à peine arrivé, les gens se pressent vers la plage. Il y en a même un, Jacques, que j'ai vu foncer face au vent, direction le front de mer.
Il vient d'arriver. Je suis venu passer une journée à Trouville pour pêcher. Je viens de la région parisienne. Bah écoutez, on va voir comment ça se passe.
Il faut dire qu'avec le couvre-feu qui pèse sur le moral en ville, l'escapade à la mer, pour lui, ça s'imposait comme une évidence.
Les relations sociales, c'est plus les mêmes. Enfin, on sort plus. Moi, je vois plus mes amis, etc. Donc là, aujourd'hui, grand air, on tombe le masque. Voilà, ça fait du bien. Franchement...
Vous comptez pêcher quoi, là ?
Bah, normalement, c'est du bar, hein. C'est du petit bar ou du gros si on a de la chance.
Et ils sont nombreux comme lui à choisir la mer pour s'évader, la plupart à la dernière minute dans cet hôtel à quelques mètres de la plage. Maxime Hibert, le responsable, a vu les réservations exploser cette semaine.
Dimanche dernier, on était encore vide, on avait très peu de réservations pour ce week-end. Et puis lundi-mardi, on a pris un pic de réservations énorme avec beaucoup d'appels, beaucoup de réservations.
Et ce soir, sur la trentaine d'hôtels ouverts autour de Trouville, les deux tiers affichent totalement complet, Fabienne.
Damien Mestre à Trouville pour Europe 1 et on reviendra sur ces températures dignes d'un mois d'avril avec Valérie Darmon dans quelques minutes.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
À l'étranger, en Algérie, une trentaine de détenus d'opinion ont donc été libérés hier, conséquence de la grâce présidentielle accordée 2 ans après les manifestations du soulèvement populaire de l'Irak. Et parmi ceux qui ont retrouvé la liberté hier soir, le journaliste Khaled Drareni, l'ancien correspondant d'Europe 1 en Algérie, aujourd'hui correspondant notamment de TV5 Monde.
Je me sens très bien comme un journaliste qui vient d'être libéré, même si j'étais toujours libre dans ma tête, même si j'étais dans une cellule, il est vrai. Mais on est toujours libre dans sa tête quand on est un journaliste convaincu et quand on sait qu'on a été mis en prison juste parce qu'on a été un journaliste libre et surtout indépendant. Mais je pense surtout à ceux qui se sont mobilisés pour moi en Algérie et à l'étranger. Je leur donne toute ma gratitude. Et je pense aussi aux autres détenus qui sont restés. Au moment où je vous parle, je ne sais pas combien il en reste. Mais je considère que s'il en reste encore un seul, alors nous ne sommes pas encore libres. Et je considère que ce combat doit se poursuivre parce que la presse doit être libre et la liberté de la presse, comme toutes les autres libertés, doit être une liberté sacrée. Je n'ai pas parlé de mon pays pendant 11 mois. C'est ça la vraie punition pour moi. J'espère que je reprendrai bientôt le boulot, celui de parler de mon pays parce que j'aime le faire et parce que je pense que je sais le faire aussi.
Khaled Drareni qui répondait à nos confrères de TV5 Monde et dont on se réjouit aussi ici à Europe 1 de la libération donc hier en Algérie. En Birmanie, 6 manifestants blessés par des tirs à balles réels suite à des manifestations qui ont eu lieu ce matin dans la deuxième ville du pays, à Mandalay.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
9 jours que l'on est sans nouvelles en Bretagne de Magali Blandin, une mère de 4 enfants portée disparue à Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine. Plus de traces depuis vendredi dernier alors qu'elle aurait dû récupérer ses enfants à la sortie de l'école. 2 battues ont été organisées avec 100 de militaires, autant de volontaires. Sans résultat, l'enquête des gendarmes n'écarte aucune piste, Marion Dubreuil, mais elle a révélé de fortes tensions conjugales.
Oui, cela faisait 6 mois à peine que Magali Blandin avait quitté son conjoint. Dans la foulée, elle avait déposé plainte pour violence conjugale. Son mari avait bien été placé en garde à vue, mais l'enquête classée sans suite début septembre. Dans le couple, les tensions restaient fortes. Sur l'argent, la garde des enfants qui devait être réglée par un juge aux affaires familiales le 8 mars prochain. Sébastien Jodon, commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine.
Ce contexte, naturellement, il a justifié les moyens très importants qui ont été mis en œuvre dès le départ. C'est une mère de 4 enfants, les plus jeunes ont 4 ans et 7 ans. Il y a un contexte dans le passé récent de Magali, un contexte de violence conjugale, en tout cas une plainte qui a été déposée en ce sens. Donc c'est pour cela que toute la semaine, on a déployé des moyens qui sont objectivement très importants, voire exceptionnels.
Selon le procureur de la République de Rennes, des vérifications ont été faites auprès du mari, mais elles n'ont révélé en l'état aucun élément l'associant à cette disparition ou laissant penser à sa présence à Montfort-sur-Meux au moment des faits. Disparition volontaire ou criminelle, suicide ou accident, aucune piste n'est privilégiée. Une 20aine de gendarmes est toujours mobilisée ce week-end, assistée d'un hélicoptère pour survoler la zone.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1 notait que le parquet de Rennes annonçait qu'une information judiciaire sera ouverte lundi. On le disait au début de ce journal, est-ce qu'on desserre ou est-ce qu'on resserre les mesures? En tout cas, après le monde de la culture, le sport espère un retour du public. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, rencontre en ce moment à Lyon les dirigeants du football, du rugby, du basket, qui en attendent beaucoup. Au menu des discussions, des possibles tests de réouverture de salles et de stades. Et Simon Rubin, la ministre des Sports, s'inspire de sa collègue de la culture, Roselyne Bachelot.
Exactement, hein, l'exemple marseillais de ce concert test qui est prévu pour évaluer les risques avant potentiellement de mettre en place des protocoles pour relancer certains événements. Eh bien, ça fait envie du côté du ministère des Sports. On planche là-dessus depuis un bon moment. Les points d'étape fin janvier avec le milieu du sport n'avaient pas permis de rouvrir les stades, mais l'idée a fait son chemin depuis du côté du ministère. On a finalement repris le discours présidentiel officiel, la situation est stabilisée d'un point de vue sanitaire pour le moment. Il est temps de penser à la résilience, de relancer la machine. On ne peut pas mettre sous cloche le sport encore longtemps. On rappelle que les clubs, notamment de rugby, de basket, de handball, ont beaucoup de mal à tenir financièrement sans billetterie. Alors maintenant, concrètement, les pistes de travail semblent distinguer la réouverture des stades à ciel ouvert et des salles fermées, avec des protocoles qui seront différents. Ce sont des problématiques absolument différentes et distinctes. Les expérimentations pourraient avoir lieu à Lyon, et puis il y aura une réflexion autour des jauges, mais on peut ça vous l'annoncer d'ores et déjà, on n'aura pas de jauge fixe comme c'était le cas l'an passé. Cette fois, les jauges de public dans les stades, elles seront vraiment proportionnelles à la taille des enceintes.
Merci beaucoup Simon Ruban. En tout cas, pour l'instant, c'est dans un stade vide que l'Olympique de Marseille va rencontrer Nantes cet après-midi en Ligue 1. Coup d'envoi à 17h. Alors, on le disait, beaucoup d'expérimentations, effectivement, des expérimentations aussi du côté de la culture. Exemple à Saint-Malo, avec des tests avant et après le spectacle, plusieurs milliers de personnes assises dans une salle fermée. Pourquoi pas debout en extérieur? C'est ce que proposent en tout cas les organisateurs d'un festival à Saint-Malo. Ils travaillent main dans la main avec les médecins. Charles Guyard.
Voilà, la grande scène se situe ici en temps normal.
C'est donc ici, près de Saint-Malo, que Kevin Reyes et l'équipe du festival Reggae No Logo veulent organiser des concerts dès le mois de mai en public, le tout évidemment dans le contexte sanitaire que l'on connaît.
C'est ici qu'on va expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire dans le cadre d'un festival test.
Un test grandeur nature, restauration, bar, camping, tout sera installé pour les 2000 spectateurs. L'objectif étant de vérifier la circulation du Covid en mode concert en plein air. Le professeur Pierre Tatevin, infectiologue au CHU de Rennes, est partenaire de l'opération.
En ce moment, il y a à peu près 5% des gens qui pourraient se contaminer. Donc si, parmi les gens qui ont été au concert, le pourcentage de gens qui se contaminent est autour de 5%, on pourra considérer que le risque du concert est négligeable.
Test PCR négatif obligatoire à l'entrée, puis 3 tests à J+1, +8 et +15. Voilà les conditions à remplir pour assister au concert debout et non assis, contrairement aux nouvelles directives du ministère de la Culture, Kevin Reyes.
J'ai du mal à visualiser 5000 personnes en randonnant sur des chaises. C'est faisable, mais qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Sans imaginer d'être debout dans un espace en plein air avec les gestes barrières.
Et si le projet est validé avec le groupe Pierre-Paul Jacques en tête d'affiche probable, les résultats de ces concerts tests pourraient être connus dès le mois de juin. Saint-Malo, Charles Guyard, Europe 1.
Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et c'est donc de la douceur qui est au programme, Valérie Darmon.
Tout à fait Fabienne, des valeurs dignes du mois d'avril, les thermomètres qui affichent 13 à 19 degrés sur la majeure partie de la France, les maximales qui atteignent 23 degrés sur le sud de l'Aquitaine. Alors je vous donne ces maximales qu'on attendait tant, 13 degrés annoncés à Rodez et Brest. 14 à Carcassonne, à Saint-Étienne et Cherbourg pour cet après-midi, 15 degrés à Dijon, Saint-Brieuc, Vannes et Dunkerque, 16 degrés à Nice et Charleville, 16 degrés également à Lille et Strasbourg, 17 à Lons-le-Saunier, à Reims, à Beauvais et à Alençon, 18 à Paris et au Mans, 19 à Angoulême, 20 degrés dans le Bordelais et 22 à Biarritz et à Pau. Pour le ciel, du soleil un petit peu voilé et une grande douceur partout, mais deux petites réserves, des pluies et des vents très forts sur la pointe bretonne et le golfe du Lion, très nuageux, notamment sur le Languedoc-Roussillon, à cause des entrées maritimes, et un épisode de vent d'autant marqué qui se met en place dans son domaine.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, l'onde de choc du livre de Camille Kouchner n'en finit pas. Nouvelle étape cette semaine avec l'adoption à l'unanimité à l'Assemblée d'une proposition de loi socialiste. Objectif renforcé, la protection des mineurs contre les violences et crimes sexuels en fixant à 15 ans le seuil du non-consentement, 18 ans en cas d'inceste. Texte qui préfigure celui du gouvernement qui sera débattu mi-mars. Bonjour Martine Brousse.
Bonjour.
Présidente de la Voix de l'Enfant, vous qui portez ces questions depuis des années, vous vous dites, ça y est, on avance encore dans la protection des enfants.
Oui, j'aime bien votre « encore ». Parce que ce qui est important pour vos auditeurs, ce sont des années de combat. Nous allons entendre tout à l'heure le témoignage d'Eva Thomas, qui a été cette première femme à révéler les violences sexuelles qu'elle avait subies. Ce sont des années de travail. Et des années de travail où les professionnels, que ce soit des pédiatres, que ce soit des magistrats, que ce soit des travailleurs sociaux, qui portent cette cause. Nous nous réjouissons de ce qui se passe actuellement, parce que c'est de nouveau une étape. Mais il ne faudra pas nous arrêter là. Et je pense que cette loi doit aussi nous amener à prévenir, parce que la partie répressive est importante. Mais s'il n'y a pas de prévention, nous aurons des rendez-vous tous les 2 ou 3 ans pour renforcer la loi répressive. Il nous faut mettre en place aussi une politique de prévention.
Alors, vous l'avez dit, Martine Brault, ce combat que vous portez depuis des années au nom de la voix de l'enfant, une autre femme l'incarne. On peut même dire qu'elle a été une pionnière en étant la première victime d'inceste à témoigner à visage découvert. C'était en 1986, lors de l'émission des dossiers de l'écran. Bonjour Eva Thomas.
Bonjour Madame Lemoine.
Merci infiniment d'être avec nous quelques minutes ce midi sur Europe 1. Vous aviez alors 44 ans quand vous avez raconté sur un plateau le viol commis par votre père alors que vous aviez 15 ans. Un témoignage qui avait fait l'effet d'un électrochoc à l'époque. Comment vous vivez cette parole qui se libère de nouveau avec le livre de Camille Kouchner ?
Écoutez, je suis vraiment remplie de joie parce que je vois que cette fois-ci, après différentes étapes avec ce livre qui est formidable, et qui raconte tellement le silence, le poids de la culpabilité des victimes qui portent tout pour sauver la famille. Donc moi, je suis très heureuse de voir tout ce qui s'est passé sur MeToo Inceste. Je veux dire que maintenant, ça y est, je pense qu'on ne peut pas prendre les lois qui sont nécessaires. D'ailleurs, je pense qu'à l'unanimité, on a voté une loi de protection des mineurs à l'Assemblée nationale. Donc je pense que cette fois-ci, c'est un vrai pas. Avant, c'était des petits pas. Et maintenant, je pense que là, cette fois, le gouvernement est en face de l'explosion de la parole et de la quantité de personnes qui ont été agressées, quoi. C'est devenu tellement visible que cette fois-ci, il faut prendre des mesures vraiment importantes pour protéger les enfants.
Et d'ailleurs, on n'imagine pas à l'époque ce que vous aviez entendu sur le plateau des dossiers de l'écran avec des hommes qui appelaient au standard pour dire qu'ils avaient des relations avec leur fille et qu'ils ne voyaient pas où était le problème. Ça paraît inimaginable aujourd'hui.
Oui, mais même moi, à l'association, j'ai reçu un appel d'un homme qui disait « Pourquoi vous nous embêtez avec... Moi, je vis une superbe histoire d'amour avec ma fille, etc. Et... » J'ai dit, mais qu'est-ce que vous lui faites à votre fille? Et il m'a expliqué qu'il l'a violée, en fait. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, c'est un crime. Et c'est condamné 20 ans de prison. Il a raccroché. Donc, c'était... je sais pas comment dire. C'était vraiment... Il y avait une tolérance de la société absolument incroyable. Maintenant, on se dit, mais comment ça a pu être comme ça? Mais c'était vraiment comme ça, quoi.
Vous le dites, vous avez fait beaucoup pour faire avancer le droit. Qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus? Allonger encore la prescription? Rendre ce crime imprescriptible?
Moi, je ne suis pas d'accord pour le rendre imprescriptible parce que je pense que c'est vraiment très différent des génocides. Par contre, le garde des Sceaux a parlé de prescription glissante ou des choses comme ça. Je pense que ce sont des évolutions intéressantes. Mais je crois que peut-être qu'il faut inventer des moyens qui soient des moyens dans l'ordre judiciaire pour écouter les victimes, même quand il y a prescription. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe, puisque maintenant, quand on fait un signalement au procureur, jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment utilisé, alors que là, c'est gardé au cas où d'autres personnes auraient été agressées par le même agresseur, quoi. Donc, il y a des progrès comme ça.
Pour vous, il faut que le droit passe d'une manière ou d'une autre.
D'une façon ou d'une autre. Moi, je crois très fort à l'efficacité symbolique de la loi.
Vous attendez beaucoup, justement, de ces débats en ce moment. Pour vous, c'est salutaire, il ne faut pas que la chape de plomb retombe.
Non, et puis je pense qu'il y a aussi autre chose. Il faut s'attaquer au problème, enfin à la source du problème, et ce sont les agresseurs. Et on sait très bien qu'une grande partie d'entre eux ont été agressés dans leur enfance, et que donc il faut casser cette répétition, c'est pas possible, quoi. Et donc il faut soigner les violeurs en prison. Toutes ces questions-là, ça, c'est pour aller de l'avant, quoi.
Bien sûr.
Il faut continuer à travailler dans cette direction.
Une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire si une victime d'inceste nous entend?
Alors, croyez en vous, croyez en vos forces. Et surtout, je pense que chacun a inventé son chemin. C'est très important de sentir son autonomie, de retrouver son autonomie pour se redresser. J'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas victime toute sa vie. Et qu'après, la traversée est difficile et douloureuse, il y a la vie qui vous appelle. C'est la vie qu'on peut savourer, comme tout le monde, quoi. Ça, je peux confirmer que ça existe, puisque je l'ai vécu.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment, Eva Thomas. Merci infiniment.
Bon, merci à vous.
Nous voilà pour cet échange avec Eva Thomas que nous avons réalisé quelques minutes avant le journal. Je sais, Martine Brousse, je rappelle, toujours avec moi en studio, présidente de la Voix de l'Enfant, combien ce témoignage vous parle.
Oui, et je suis ravie que vous ayez fait cet enregistrement avec Eva Thomas. Et je souhaite vraiment que nous l'entendions dans les semaines à venir, tout au long des discussions qu'il va y avoir, parce qu'il faut que nous évitions. C'est la voix de la sagesse, Eva Thomas. Elle a toujours su prendre cette distance et nous amener à une réflexion de fond, ce qui n'empêche pas la souffrance des victimes, ce qui n'empêche pas qu'il faut en faire entendre leur voix, qu'il faut qu'il y ait des réponses, comme elle le dit, et des réponses par la loi. La loi doit être dissuasive aussi, mais il faut aussi que nous allions de l'avant et que nous puissions aujourd'hui faire des propositions qui vont permettre à ces enfants qui sont victimes de pouvoir libérer leurs paroles, d'être pris en charge, mais pas uniquement pris en charge comme objet de procédure, mais pris en charge aussi avec leur souffrance et donc au niveau du soin et accompagné.
Justement, Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant, par rapport au droit qui doit être adapté, comme l'a dit Emmanuel Macron, est-ce que pour vous, justement, cette prescription doit aussi être allongée ?
La Voix de l'Enfant partage tout à fait ce que vient de dire Eva Thomas, c'est-à-dire que nous pensons que l'imprescriptibilité doit être réservée aux crimes contre l'humanité. La Voix de l'Enfant a fait une proposition au garde des Sceaux d'une imprescriptibilité dans le cadre d'une procédure civile. Nous l'avons expérimenté à la Voix de l'Enfant.
Ça veut dire qu'en gros, pas de procès pénal, mais la reconnaissance quand même qu'il y a eu...
Pour les victimes qui le demanderaient, une fois que la prescription est passée, c'est-à-dire 48 ans, hein, c'est 18 ans et 30 ans après la majorité, donc 48 ans, il y a des victimes qui choisissent de ne parler qu'après ce passage de la prescription. Elles parlent parce qu'elles ne veulent pas de procès, elles ne veulent pas être mises comme ça devant une cour d'assises.
Mais elles veulent quand même que le droit reconnaisse qu'elles ont été victimes.
Voilà, elles veulent être reconnues, et l'expérience que nous avons eue dans le cadre d'une procédure civile, c'est un magistrat dans son cabinet qui convoque la personne mise en cause, la victime, et les quatre fois où nous l'avons fait, les personnes mises en cause ont reconnu les faits et la victime est sortie en ayant vraiment le sentiment d'avoir été reconnue comme victime. Je pense qu'il faut... Il n'y a pas de réponse unique par rapport à l'ensemble des victimes, qu'elles soient victimes d'inceste ou victimes d'autres types de violences sexuelles. Parce que certes, c'est 70-80% intrafamilial, mais il y a aussi toutes les autres victimes de violences sexuelles qu'il faut prendre en charge. Et il faut faire attention de ne pas créer une discrimination avec ces deux seuils d'âge. La Voix de l'Enfant est
C'est-à-dire
très
que vous n'êtes pas favorable au fait qu'on fasse une distinction sur l'âge du consentement entre 15 ans et 18 ans pour ce qui concerne l'inceste, parce qu'on dit que l'emprise est d'autant plus importante que ça se passe au niveau familial.
C'est vrai, mais la Voix de l'Enfant considère qu'on risque de créer des discriminations. Nous sommes en train de travailler sur tous les types de familles aujourd'hui, ou tous les types d'accueil. Un enfant qui est placé à l'âge de 3-4 mois chez une assistante familiale, qui va être violé pendant toute son enfance, qui part à 18 ans, lui, son seuil d'âge, ça sera 15 ans. Pourtant, c'est le modèle de la famille. Je donne cet exemple-là parmi d'autres. Et puis, il nous paraît surtout important que nous devons d'abord et tout faire en sorte qu'il y ait ces réponses juridiques, mais aussi
la
qu'il
prévention.
Y ait de la prévention.
Alors justement, Emmanuel Macron, lorsqu'il a réagi à ce mouvement MeToo en test avec une vidéo depuis l'Élysée, a parlé de la possibilité de rendez-vous médicaux au sein de l'enceinte scolaire où l'enfant pourrait parler, être, non pas questionné, mais en tout cas... pourrait être interrogé autour de et lui donner l'occasion de libérer cette parole. Est-ce que c'est ça que vous appelez de vos voeux, justement, qu'à l'école, on soit plus vigilant encore ?
Alors, ce que nous appelons de nos voeux, et lundi, il y a une réunion, mardi, pardon, il y a une réunion avec notre secrétaire d'État, Adrien Taquet, et le ministre, et le ministre de l'Éducation nationale, qui met en place un groupe de travail sur ces questions. Ce que demande la Voix de l'Enfant, c'est que dès la maternelle, de la maternelle jusqu'à la fin du collège, tous les ans, dans chaque classe, il y ait un professionnel, que ce soit un pédiatre, un magistrat, un travailleur social, une association qui est reconnue comme telle, pouvant informer que tous les ans, les enfants puissent entendre.
Et qu'est-ce qu'on leur dit
parler.
Parce que c'est difficile d'aborder ces questions-là, surtout au plus jeune âge.
Ce n'est pas difficile. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Faisons pas peur aux enfants. Ne disons pas à un enfant qu'il va être à un moment donné violé ou autre. Non. Ce qu'il faut, c'est leur expliquer, déjà leur parler de leur corps. de ce qu'est leur corps, du respect que nous devons avoir, nous les adultes, vis-à-vis d'un corps d'enfant, et puis aussi les copains vis-à-vis, ou copines vis-à-vis d'eux, et puis aborder ces questions. Il faut que nous en parlions. Le problème, c'est que très souvent, les enfants ont peur parce que, d'abord, ils ont honte, ils se sentent coupables. Déjà, si nous pouvons leur dire, mais si jamais, parce que la majorité des enfants ne seront pas victimes, et ça, il faut le dire, mais si jamais ils étaient victimes, il ne faut pas avoir honte, ils ne sont pas coupables, ce n'est pas de leur faute. Et surtout, si je peux me permettre, appelez le 119, et je dis le 119 pour les plus jeunes, 119-119, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'ayez pas peur d'appeler ce numéro. Et puis, il y a la plateforme maintenant, où ils peuvent aussi envoyer une information par mail. Et bientôt, il y aura le chat. Donc, voilà, les choses se mettent en place. Il y a une volonté. Nous nous réjouissons de cette volonté. Mais faisons attention de voir large. Hein, ne rétrécissons pas nos positions. Voyons large pour permettre à tous les enfants victimes et au-delà même des violences sexuelles. Rappelons qu'actuellement, il y a 1 à 2 enfants qui meurent sous les coups de l'un ou de leurs parents par semaine.
Merci beaucoup Martine Bruce. Bruce, présidente de la Voix de l'Enfant, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et la prochaine étape, ce sera aussi ce débat le 15 mars à l'Assemblée nationale. Très important. On voit que le débat est lancé, qu'il doit continuer.
Et souhaitons qu'il soit le plus serein.
Et qu'il soit apaisé, on l'a bien compris.
Et juste si je peux me dire, souhaite aussi qu'il n'y ait plus de 125 députés, car il n'y a eu que 127 députés qui ont voté ce premier texte, cette proposition. Donc je souhaite que l'hémicycle soit plein, parce que c'est un problème et c'est un phénomène de société.
Merci infiniment pour cet appel lancé sur Europe 1. Merci Martine Brousse. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous mettrons le cap sur la Normandie, un petit village dans la Manche qui ne veut pas, figurez-vous, des antennes du futur réseau Internet d'Elon Musk.